Bienvenue à votre émission La Voix des immigrants sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je m'appelle Mukele, je suis votre animatrice comme d'habitude. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de la crise du logement. Pour quelles raisons? Parce que ça m'intéressait d'en savoir plus sur cette crise. On en parle beaucoup dans l'actualité, puis je ne me suis jamais vraiment intéressée au sujet, mais aujourd'hui, j'ai décidé que que je voulais connaître un peu les enjeux là, derrière cette crise. Juste avant de débuter l'émission, c'est pas vrai. Pour débuter l'émission, on a deux manchettes, une traitant de la guerre au Soudan et une seconde traitant de la fusillade qu'il y a eu il y a une semaine environ en Ouganda, dans une école secondaire. Et donc on se laisse pour une belle petite pause, en fait une brève petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos deux manchettes.
Le matin, mon cadran est assez cahuté. Pendant le déjeuner, j'écoute ses cahutés. En me rendant au travail, j'écoute ses cahutés.
Pourquoi quelques ouvriers veulent tout cahuter?
Au travail, on écoute tous ses cahutés. Pendant que je prépare le souper, c'est ses cahutés. Plus tard, pour relaxer, je syntonise ses cahutés. Et dans mon lit, j'écoute encore ses cahutés.
Ses cahutés! Ses cahutés!
Je capote sur toi.
Tout ça au 90.3 FM à Montréal.
Me revoilà au micro. Pour notre première manchette, il y a actuellement 2,5 millions de déplacés et réfugiés en 2 mois de guerre au Soudan. Donc, plus de 2 mois de guerre entre armées et paramilitaires ont forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur maison au Soudan, a annoncé mardi, l'ONU, notamment dans la région du Darfour où des corps jonchent les rues. Donc, le conflit a éclaté le 15 avril dernier entre l'armée commandée par le général Abdel Fattah el-Bourhani et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, un conflit qui a fait 2000 morts dans le pays selon, jusqu'à date, donc 2000 morts selon l'ONG ACNED ou ACND. Les violences sont les plus meurtrières sont au Darfour, donc une vaste région de l'est du Soudan. Dans la seule ville maintenant de Deir Jemena, la capitale de l'État du Darfour Ouest, 1100 personnes ont été tuées. Dans les rues se trouvent des cadavres recouverts à la va-vite de vêtements, donc des cadavres qui gisent sous le soleil brûlant. Et on a également des pillages dans les magasins, donc on a des vitres brisées, etc. Dans un enregistrement sonore mis en ligne, le général Daglo, le général Mohamed Hamdan Daglo a dénoncé, comme on a parlé d'un conflit tribal, affirmant donc avoir ordonné à ses hommes de ne pas intervenir et accusant l'armée de créer la sédition en distribuant des armes à des civils. Bon, vous pouvez aller chercher le mot sédition dans le dictionnaire. Depuis vendredi, 15 000 Soudanais, dont près de en tout, dont 9 000 blessés, donc 15 000 Soudanais ont fui vers le Tchad, vers la ville de André. En tout et pour tout, on a 550 000 personnes qui auraient fui vers des pays voisins. Donc, il y a le Tchad, entre autres, il y a l'Égypte également, apparemment. Le Soudan du Sud également. Maintenant, lundi, donc on se retrouve, l'article est paru cette semaine, en fait, je dirais le mardi, dans la presse. Et donc lundi, donc la communauté internationale réunie à Genève a promis 1,5 milliard de dollars d'aide donc pour les victimes. Et on perd en fait la moitié là, des besoins qui seraient nécessaires. Donc, en tout et pour tout, on aurait besoin de 3 milliards d'aide, mais on a 1,5 milliard pour l'instant. Plus de la moitié de la population du Soudan, 25 millions de personnes ont désormais besoin donc, de cette aide humanitaire pardon, pour survivre, selon l'ONU. Et l'arrivée de la saison des pluies fait de plus craindre les épidémies, donc souligne le CICR. Rappelant que de nombreux habitants sont forcés de boire l'eau insalubre du Nil ou d'autres sources. Donc, voilà. Maintenant, concernant la tuerie en Ouganda, donc, bon, vous savez que le week-end dernier, il y a eu 42 morts dans une école secondaire en Ouganda. Et puis, cette semaine, en fait, lundi, la police ougandaise a annoncé l'arrestation de 20 collaborateurs des présumés rebelles ADF, donc des forces démocratiques alliées, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Et donc, voilà. Donc, ces milices, en fait, cette milice, les djihadistes, hein, auraient fait, donc je répète, le 42 morts. Et puis voilà. Mais au moins, on a arrêté 20 prisonniers, personnes, collaborateurs du groupe islamiste. On se laisse à nouveau pour une brève petite pause et on se retrouve donc dans quelques instants avec notre sujet du jour, la crise du logement.
Vous écoutez CKUT.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Me revoilà au micro, donc notre sujet du jour, la crise du logement. Je suis tombée hier sur un article, hein, donc je cherchais une info sur cette cybercrise, et puis je suis tombée sur un article de Mathieu Bock-Côté, le fameux sociologue qui est en prison là, dans les médias, pas dans l'actualité. Puis voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que M. Bock-Côté faisait le lien entre la crise du logement et l'immigration. Je trouvais que le lien n'était pas, en fait. Je trouve qu'il y a de l'exagération, mais bon, c'est son opinion. Voilà. Donc, je vous fais part de l'article. Il dit donc pour, en fait, là, je vous lis rapidement l'article. Pour la classe moyenne, l'accès à la propriété est de plus en plus complexe, à moins de consentir à s'exiler de plus en plus loin des grands centres. Autrement dit, l'accès à la propriété qui est au cœur de l'identité de la classe moyenne, donc devient un fantasme inaccessible. Donc, trop cher, pas assez de propriété. Pour les locataires, la situation est aussi complexe. Il devient de plus en plus difficile de se loger à un prix abordable. L'un des facteurs, et donc là, M. Côté, voilà, l'un des facteurs, trop souvent laissé de côté, comme s'il était indécent de le mentionner, comme si cela ne respectait tout simplement pas les convenances, serait donc l'immigration massive. Donc, selon M. Bock-Côté, l'immigration massive transforme complètement le marché immobilier. Donc, il y a donc un effet mathématique, hein, selon ses dires. Donc, si la population augmente sans que les propriétés ou les loyers, donc les locations, les logements disponibles, n'augmentent au même rythme, la pression sur le marché immobilier sera de plus en plus forte. Il mentionne que cela n'est pas exclusif à la région de Montréal, donc toutes les grandes métropoles connaissent le même phénomène. Et résultat de cette tendance, les populations natives, donc là, ce qui fait allusion, parce que je sentais dans le discours de M. Bocoté une espèce de discours un peu, en fait, une connotation un peu, je dirais, pas raciste, je dirais pas ça, mais bon, il y a des préjugés, parce qu'il poursuit en disant que les populations natives, donc ce qu'on fait, disons, aux Québécois de souche, donc sont généralement chassés des métropoles. Donc le Québécois de souche, entre autres parce qu'il y a une migration, on va dire, importante au Québec, et donc cela a un impact sur le marché immobilier. Donc le Québécois de souche, lui, est chassé des métropoles. Donc, les populations natives sont généralement chassées des métropoles, désormais donc réservées aux catégories sociales les plus prospères, qui ont les moyens d'y vivre, et aux populations issues de l'immigration qui occupent les métiers de service, bon, et qui se regroupent en comités ethniques. Donc, bon, je trouvais qu'il y avait bon, un peu de je ne sais pas si on peut établir un lien direct entre l'immigration et la crise du logement. Je trouve que c'est de l'exagération. Bon, la population augmente, il nous faut de plus en plus de propriétés, de plus en plus de logements à louer, mais est-ce que c'est du fait de l'immigration? Je veux dire, ce que je me disais hier, c'est que ben, si c'est l'idée de M. Bocoté qui demande qu'il y ait faim, en fait, si c'est vraiment une idée du gouvernement, des dirigeants en place, ben, qu'on le dise, et puis ben, là, qu'on décide, est-ce qu'on diminue l'immigration parce que ben, l'immigration a un impact sur la crise du logement? Donc, voilà, il n'y a peut-être uniquement pas assez de loyers, de propriétés disponibles. Puis bon, voilà. Mais en même temps, l'État, les dirigeants parlent d'un besoin d'immigrants pour toutes sortes de raisons. Donc, voilà, entre autres, calmer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct entre les deux phénomènes? Bon, bref, voilà. L'opinion de M. Bocoté, voilà. Hein? Pour poursuivre, donc, il est important, là, je juge, de comprendre en fait ce qu'est exactement cette crise du logement, parce que là, je vous ai donné l'opinion de M. Bocoté, mais finalement, en quoi elle consiste, cette super crise? J'ai pris l'information sur le site de Centraide Québec, donc vous allez sur, vous tapez crise du logement, deux petits points, tout le monde est concerné, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, et puis on vous explique un peu. Donc, on vous parle du contexte, on vous parle de données, donc relatives à la crise du logement, etc. Donc, pour résumer, voilà ce que j'ai retrouvé sur ce qui explique le groupe Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, le groupe débute en disant que la crise n'affecte pas que les Montréalais. Elle atteint un nombre croissant de personnes avec toutes sortes de profils. En plus, bon, on a les gens donc, en situation de pauvreté et d'exclusion. Mais voilà, il y a également d'autres gens, c'est ce qu'on comprend. Donc, la journée du déménagement approche à grands pas, donc le 1er juillet. Et donc, il est important de comprendre un peu voilà, quels sont les quels sont les fondements, oui, les causes expliquant donc cette super crise. Donc, pour débuter, on a une donnée, une statistique en 2016, ce qui est la statistique en fait qui est présentée par le groupe Centraide. Donc, on a peut-être des statistiques plus récentes, mais on parle d'une statistique de 2016. Donc, en 2016, 457 000 ménages locataires québécois vivaient dans un logement inabordable et près de 200 000 d'entre eux consacraient plus de 50 % de leurs revenus à ce logis. Donc, rappelons, donc le groupe Centraide rappelle qu'un logement est considéré inabordable lorsque plus de 30 % du revenu est consacré à ce logis. Donc, en 2016, ce qui fait, ça fait bon 8 ans, 200 000 logements, en fait, locataires québécois consacraient plus de 50 % de revenus à ce logis. Il faudrait voir, vérifier aujourd'hui le pourcentage de revenus consacrés par les locataires québécois, là, la majorité au niveau là, du logement. Le groupe Centraide qui part maintenant de la Beauce, où également on a une importante crise du logement, donc entre autres suite à des inondations, là, en 2018, également à Saint-Georges et à Sainte-Marie. Ce ce qu'on dit, donc, entre autres, pour Sainte-Georges et Sainte-Marie, c'est qu'on a un taux d'inoccupation, donc de 0,6 et de 0,4 respectivement. Donc, 0,6 pour Saint-Georges et 0,4% pour Sainte-Marie. Et par la suite, on mentionne que le marché locatif est jugé équilibré lorsque le taux d'inoccupation se situe autour de 3%. Donc, on comprend qu'à Saint-Georges et à Sainte-Marie, bien, on a clairement un marché qui n'est pas jugé équilibré. Et donc, on aurait un manque de logement. Il faudrait vérifier pour Montréal le pourcentage d'inoccupation des logements. Par la suite, le groupe s'entraide par les effets de la pandémie. Donc, la pandémie a révélé des inégalités existantes, en fait, les inégalités existantes en matière de logement. Les mesures de confinement ont démontré l'importance d'un chez-soi qui correspond à nos besoins. En effet, la qualité du logement a des impacts majeurs sur de nombreux aspects de nos vies, entre autres sur la réussite scolaire des jeunes et sur la santé mentale. Donc, le lien à faire. Donc, la pandémie a révélé les inégalités existantes en matière de logement. Hein, donc, avec la crise, je pense que les logements étaient de plus en plus rares et finalement, le Québécois se retrouvait dans des logements, peut-être un logement qui n'était pas approprié. Et il y a des impacts clairs. Donc, on parle effectivement donc, de qualité donc appropriée pour un logement qui. Qui est peut-être moins, qui n'est pas approprié, dont la qualité était un peu diminuée, donc des impacts majeurs sur, entre autres, la réussite scolaire des jeunes, la santé mentale. Autre effet de la pandémie, donc le marché immobilier s'est emballé au cours de la dernière année, conséquence une forte hausse du prix des maisons et des copropriétés qui a rendu l'accès à la propriété inaccessible pour plusieurs. Cette situation en a forcé plusieurs à demeurer locataires, accentuant ainsi la pression sur le marché locatif. Maintenant, concernant donc l'industrie de la construction et la rénovation, donc il y a eu une hausse en fait. Donc c'est super. En fait, les effets de la pandémie ont entraîné une hausse sur l'industrie, en fait, tout ce qui est construction donc, et rénovation. Donc un impact à la hausse sur le prix des logements et des propriétés. Ensuite, le développement du marché immobilier met une forte pression sur le marché locatif qui perd constamment des unités de logement. Cet effet de rareté peut à son tour mener à des loyers de plus en plus chers. Pression sur le marché locatif, donc moins de logements disponibles pour les Québécois, en fait, ce qui fait que les propriétaires augmentent les prix. Puis c'est ce qu'on raconte dans l'actualité, des 4,5 qui varient en fait, autour de 1 000 $, extrêmement cher. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on vivait dans un 4,5, je crois qu'on payait, je pense, en 600 par mois. Aujourd'hui, en 2023, le 4,5 est de 1 000 $. C'est logique. Il y a beaucoup de propriétaires, en fait, qui ont acheté à l'époque. J'ai acheté à l'époque un condo qui me coûte autour de 1 000 $ par mois. Un 4,5 toujours, mais qui m'appartient. Et là, donc, on voit que tout le monde se met à acheter ses logements. Bref. Donc, c'est extrêmement cher. Donc, voilà pour les effets de la pandémie. La crise du logement touche tout le monde. Si elle a atteint des gens de la classe moyenne qui ont de la difficulté à se loger, imaginons donc les personnes qui ont un faible revenu. Et on parle également, donc, je pense plus tard, des personnes, en fait, là, faibles revenus, des personnes âgées, entre autres. Pour toutes ces personnes, la crise du logement rime avec une précarité et un appauvrissement accru qui en force plusieurs à couper dans d'autres dépenses essentielles comme l'alimentation. Pour les personnes aînées ou les personnes qui cherchent un logement adapté, la crise peut signifier un déménagement vers un logement plus cher, de moindre qualité et souvent loin de leur réseau social. Des solutions existent à cette crise. Elles passent entre autres par un développement du logement social, mais aussi par des manières de freiner la hausse des loyers et de diminuer le nombre d'évictions. Les organismes communautaires et les piliers gouvernementaux ont un grand rôle à jouer en ce sens. D'ailleurs, les organismes communautaires travaillent de diverses façons à assurer le droit à un logement convenable pour tous et toutes. Voilà, ils développent toutes sortes de solutions. Donc, entre autres, on parle d'accompagner donc les locataires qui font face à des augmentations de loyers démesurés ou à des problèmes d'insalubrité dans leur logement. Ces organismes travaillent à l'amélioration du parc locatif et à l'accroissement des possibilités d'habitation, développent des logements pour des personnes plus vulnérables, accompagnent des groupes de requérants portant des projets de logements sociaux, informe finalement les locataires sur la possibilité d'avoir accès au programme d'allocation au logement. Donc, voilà, vous pouvez visiter la page donc, du groupe central de Québec et Chaudière-Appalaches, donc, qui explique un peu quelle est voilà, exactement cette crise du logement. Donc, tout le monde est concerné, hein, c'est ce qu'on dit, puis on voit que, ben voilà, c'est en 2016, la crise avait débuté. Elle a débuté apparemment, je lisais un autre article, je pense autour de 2000, dans les années 2000. 2016, on avait 200 000 Québécois, en fait, locataires québécois qui consacraient plus de 50 % du revenu à se loger, alors qu'on doit situer autour de 30 %. Puis il faut vérifier le taux d'inoccupation. Donc, à Montréal, Saint-Georges, on était à 0,6 en 2018, je pense bien, 0,4 à Sainte-Marie. Voilà. Donc, crise du logement, logement plus cher, propriété, voilà, qui sont un logement plus cher, moins nombreux, propriété également de plus en plus chère et tout. Puis voilà. Puis on a notre monsieur Bocoté qui fait le lien entre l'immigration. Je ne suis pas d'accord avec l'opinion de monsieur Bocoté, mais voilà, c'est son opinion. Donc, pour poursuivre donc, sur cette crise, en fait, sur cette crise, on va écouter ensemble un intéressant reportage disponible sur YouTube d'un groupe communautaire. Là, je vais aller chercher, je vais revenir avec le titre, mais on parle donc, du droit des locataires durant la crise du logement au Québec. Donc, je vais chercher rapidement le titre, si c'est possible. Donc, le titre du groupe. Je vais tout de suite. Donc, c'est un groupe. C'est le réseau québécois fils. Je vais dire ça tout de suite. Ouais, le réseau québécois des OSBL. Le réseau québécois des OSBL d'habitation, donc des organismes sans lucratif, d'habitation. Puis, donc vous avez un super documentaire donc, du groupe, donc le droit des locataires sont à la crise du logement au Québec. Entre autres, on parle des droits des locataires, donc c'est pas... Le titre le parle bien, décrit bien le reportage, donc on parle vraiment des droits des locataires. Puis également, c'est intéressant, également, on fait allusion à ces groupes-là qui sont discriminés lorsqu'il est temps de se chercher un logement. Donc, super reportage intéressant. On écoute ensemble, je dirais, autour de 24 minutes du reportage. Le documentaire, en fait, il dure 30 minutes en tout et pour tout. Donc, si vous voulez écouter la fin du reportage documentaire, bien, vous irez sur YouTube. Donc, le droit des locataires durant la crise du logement au Québec. Un documentaire donc, du groupe Réseau québécois des OSBL d'habitation. À la fin du reportage, donc on se retrouve vraiment plus tard. Donc, à la fin du reportage, vous entendrez l'artiste Philippe Hirachi, featuring Ala Al-Hindi. Donc, Philippe Hirachi est un artiste originaire du Maroc. Okay. Donc, qui est connu ici, qui vit au Maroc, un artiste marocain, mais que j'ai connu donc, dernièrement. Et puis voilà, il a une chanson bien, que j'aime bien. Donc, une chanson nommée Neida, N-A-Y-D-A. Donc, Phoebe Rashi featuring Anna Hal Hindi. Donc, c'est ce qu'on va écouter à la suite donc, du reportage donc, du groupe voilà, du réseau québécois des OSBL d'habitation donc, sur le droit des locataires durant la crise du logement au Québec. Et on se retrouve donc après la musique voilà, de Phoebe Rashi. On se retrouve donc, pour la fin de l'émission.
Depuis les dernières années, nous entendons parler de plus en plus fréquemment de la crise du logement qui touche plusieurs villes du Québec. En effet, les prix des loyers ont augmenté de façon marquée et le nombre de logements disponibles se fait de plus en plus rare. Avec le 1er juillet, soit jour du déménagement qui approche à grands pas, ces enjeux sont d'autant plus importants puisque cette période peut être difficile pour les ménages qui n'arrivent pas à se trouver de logement. Je m'appelle Michèle Poupard, administratrice senior.
Et je m'appelle Marianne Goyette, rédactrice senior. Vous écoutez « Les droits des locataires durant la crise du logement au Québec », un podcast de la Revue de droit de McGill. Nos deux invités aujourd'hui sont Maître Marc-André Aymard, avocat au bureau Centre-Sud de l'aide juridique, et Maître Daniel Crespo-Villarreal, chargé de cours en droit du logement à l'Université du Québec à Montréal et avocat chez DCC Légal.
Dans cet épisode, nous nous demandons de quelle manière la crise du logement affecte les droits des locataires. Nous aborderons les droits et obligations respectives des propriétaires et des locataires, ainsi que certains mécanismes mis en place pour protéger les droits des locataires. Notamment, nous discuterons du phénomène des rénovictions et des particularités du tribunal administratif du logement. Finalement, nous parlerons de solutions potentielles à la crise du logement et de la particularité de pratiquer comme avocat en droit du logement.
Nous avons demandé à Maître Daniel Crespo de nous parler du contexte du logement dans le Grand Montréal. Pourquoi parle-t-on présentement d'une crise?
Le contexte du logement dans le Grand Montréal est un peu à l'image du contexte dans l'ensemble du Québec, voire dans les grandes villes canadiennes, c'est-à-dire qu'on assiste au cours des dernières années à une baisse du taux d'inoccupation dans les logements locatifs résidentiels, ce qui crée une pression à la hausse quant au prix des loyers et qui vient renforcer en fait le rapport de force qui peut exister dans le contrat locatif résidentiel là, entre un propriétaire et un locataire, à travers le critère du taux d'inoccupation dans les logements, qui est le critère principal utilisé pour déterminer s'il y a une crise ou pas. Sans trop de doute, là, on peut réellement conclure qu'il y a une crise du logement à Montréal particulièrement, due à justement ce taux d'inoccupation qui frôle, dépendant des quartiers, de 0,5 à 2,5%, chose qui est très très bas. Et pour donner un comparatif, il y a une dizaine d'années, ce taux d'inoccupation dans les quartiers centraux montréalais était de 3 à 5%, alors qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, il n'était pas rare de voir des années où ce taux pouvait varier de 5 à 7% à 8%.
Sur ce même sujet, Maître Marc-André Aymard ajoute que
dans le Grand Montréal, il y a eu une flambée relativement astronomique des coûts mensuels des loyers parce qu'au tournant des années 2000, normalement, un prix de loyer était relativement correspondant au nombre de pièces. C'est-à-dire qu'un 3,5, c'était 300 quelques dollars. Un 5,5, c'était 500 quelques dollars. Et ça, c'était une règle quasi générale dans le Grand Montréal, sauf quelques quartiers un peu plus prisés. Ce qui fait qu'en l'espace d'environ 20 ans, maintenant, le même 3,5 peut coûter 700, 800, 900, voire 1000 dollars.
Maître Crespo nous a expliqué l'impact de ce déséquilibre entre les loyers et le taux d'inoccupation.
On n'est pas face à un contrat qui se négocie à force égale, ou dont l'exécution successive s'effectue à force égale. On est face à un droit fondamental. C'est un besoin qu'un locataire a besoin, c'est une nécessité. Il ne peut pas se priver, pas choisir de ne plus habiter sous un lieu, en tout cas pas dans les conditions climatiques que nous connaissons au Québec. Donc, nécessairement, s'ensuit un rapport de pouvoir face à quelqu'un qui possède ce bien-là, qui a le pouvoir, moyennant certains mécanismes, de l'évincer ou de faire pression.
Nous lui avons ensuite demandé si la crise du logement affecte tout le monde de la même manière et s'il existe ici un risque de discrimination.
Puisqu'on parle d'un contrat de droit privé, on est soumis ici à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c'est-à-dire que le contrat du bail pour avoir accès à un logement ainsi que son exécution est soumis à cette interdiction de discriminer en fonction des 14 critères. Il y a donc une protection qui relève de manière naturelle de la Commission des droits de la personne et pas de la jeunesse. Et comme pour n'importe quel cas de discrimination, là où le bât blesse ici, c'est de faire la preuve de cette discrimination. Ce qu'on voit le plus souvent comme démonstration de discrimination, c'est l'accès au logement. Il y a des études intéressantes, pas nécessairement de grandes publications, mais certaines études au Québec, mais surtout aux États-Unis, où on a démontré en ayant des profils de locataires similaires, simplement en changeant les noms, des noms à consonance locale, pour ainsi dire, et des noms avec une certaine altérité, une certaine consonance d'origine étrangère, qu'effectivement, les acceptations de location sont plus faciles à obtenir lorsque on est originaire de la place où on applique. On est dans les dynamiques également de discrimination indirecte, de discrimination systémique. Un exemple clair qu'on va voir souvent, par exemple, ça va être la question du propriétaire et qui a le droit de le faire, de demander une enquête de crédit pour l'obtention du logement. Or, si vous êtes un immigrant récemment arrivé, vous n'avez peut-être pas d'historique de crédit ici. Vous n'avez peut-être pas non plus de contact afin de vous donner une caution qui vienne rassurer le propriétaire à ce niveau. Donc on est face à un motif de discrimination qui effectivement est interdit, d'origine ethnique, mais qui est difficilement protégé par le recours judiciaire. Comment est-ce qu'on prouve qu'il y a là une discrimination, surtout dans un contexte de pénurie de logement?
Maître Marc-André Aymard a aussi invoqué certaines précisions sur cet aspect de la discrimination.
Au niveau de la discrimination, il faut distinguer deux étapes. Il y a l'étape où on tente d'obtenir un logement. Donc, on est le locataire qui recherche un logement et qui, pour une raison en lien avec son état matrimonial, son origine ethnique, son orientation sexuelle, son âge ou son état civil, parenthèse, le fait d'être, exemple, mère monoparentale de 3 enfants, si on réussit à démontrer que le locataire a refusé de nous louer le logement en raison d'un motif discriminatoire énoncé par la Charte des droits et libertés de la personne, eh bien, on a des protections, mais il faut s'adresser à la Commission des droits de la personne et celle-ci déposera plainte au Tribunal des droits de la personne. Pourquoi? Parce que le contrat n'aura jamais été signé. Donc, il s'agit d'une faute civile extra-contractuelle et c'est pourquoi le recours n'aura pas lieu devant le Tribunal administratif du logement. Lorsqu'on a signé le bail, qu'on est locataire, et qu'on subit un traitement discriminatoire, eh bien, le tribunal administratif du logement a compétence pour entendre toute demande au niveau de s'il y avait quelqu'un qui alléguait être victime de discrimination, si ça découle du bail et de l'exécution ou de l'inexécution des obligations qui y sont prévues. Donc, un juge administratif pourrait dédommager un locataire parce qu'il aurait été victime de discrimination de la part de son locataire.
Nous avons par la suite interrogé Maître Crespo au sujet des obligations respectives des locataires et des locateurs une fois le bail signé.
Si on parle des obligations des locataires, la principale obligation, c'est vraiment de fournir un logement qui soit dans des conditions d'habitabilité adéquates, qui soit exempt de tout besoin de réparation, et qui offre le terme juridique là qu'on emploie, le concept employé, c'est vraiment la question de la jouissance des lieux. Donc offrir la pleine jouissance des lieux. Du côté des locataires, sa principale obligation, c'est la contrepartie de cette jouissance des lieux, c'est-à-dire le paiement du loyer. Donc évidemment qu'il y a l'obligation pour le locataire de prendre soin du logement qui est loué, à défaut de réparer ou de rembourser ce brisé, ce qui est endommagé. De la même manière qu'il y a des obligations de la part du propriétaire de ne pas harceler, de ne pas mettre de la pression, de garantir un bon maintien des lieux, de respecter l'encadrement des modifications du bail, dont des hausses de loyer, etc. Mais quand on parle de régime juridique, à proprement parler, on est vraiment face à un contrat de gré à gré, où les prestations principales sont le paiement du loyer versus pleine jouissance des lieux.
Nous avons ensuite demandé à Maître Crespo quelles sont les protections en place pour protéger les locataires dans des situations abusives.
Ici, quand on parle de protection, on parle essentiellement de les dangers, si on identifie les dangers, ça serait le maintien dans les lieux. Donc vraiment, quels seraient les éléments qui pourraient causer que cette personne, le locataire ou la locataire, ne puisse plus avoir son droit au maintien dans les lieux. Ça, c'est de la même manière que je vous disais que la principale obligation du locataire, c'est le paiement de loyer. Sa principale protection, c'est le principe qui est codifié dans le Code civil du droit au maintien dans les lieux. Donc, à partir de ce droit-là, naissent différentes protections, comme la protection de rester et de voir son bail se renouveler année après année, sans qu'il y ait formalité requise. De la même manière, ce droit maintien dans les lieux, pour le rendre effectif, pour qu'il ne soit pas que théorique, prévoit un certain contrôle des loyers. Parce que si on dit qu'il y a un droit maintien dans les lieux et que le bail peut se renouveler, mais que les paramètres du bail, par exemple le loyer, peut être modifié entre chaque terme, sans contrôle, on est en train de mettre à mal et de rendre vulnérable ce droit maintien dans les lieux. Donc il y a plusieurs protections corollaires à ce droit maintien dans les lieux, dont l'encadrement des hausses de loyers. Ça, bien sûr, il va y avoir des exceptions à ce droit maintien dans les lieux, qui sont les recours en reprise de logement, par exemple, lorsque le propriétaire veut reprendre le logement loué aux fins de son utilisation personnelle ou pour un membre de sa famille, ou l'éviction pour certains travaux, des agrandissements, des subdivisions, voire des changements d'affectation, qu'on dit, c'est-à-dire de rendre un logement résidentiel commercial par la suite, etc. Donc, il va y avoir des petites exceptions au droit maintien dans les lieux, mais elles doivent être prévues par la loi, elles sont régies et encadrées par la loi.
Maître Aymar nous a donné des exemples de ces exceptions.
Je vais commencer par les hausses abusives de loyer parce que c'est en lien un peu avec la question précédente en ce sens qu'il y a trop peu de gens qui utilisent le recours indiqué à la clause G. Lorsqu'on met un logement vide sur le marché, on peut l'afficher au prix qu'on souhaite. Toutefois, il y a une possibilité de demander la révision du prix convenu consensuellement entre les parties à la régie du logement si ce prix semble bien supérieur au prix le plus bas payé lors des 12 derniers mois par un locataire précédent. C'est sûr que ce recours-là, il est très, très peu utilisé parce que les gens n'aiment pas commencer une relation contractuelle sur un aussi mauvais pied. Et également, les délais sont très courts pour réagir, parce que quand la clause est dûment remplie, le délai est de 10 jours suite à la signature du bail. Pour ce qui est des hausses de loyer, eh bien, c'est simple. Il faut simplement répondre à l'augmentation en disant « je refuse et je reste ». Les avis préparés par le tribunal administratif du logement prévoient 3 possibilités de réponse offertes aux locataires. Bien souvent, ceci dit, les avis envoyés par les locataires n'incluent pas nécessairement la 3e réponse qui est « je refuse les modifications proposées et je reste dans mon logement ». Une fois que cette réponse est envoyée au locataire, celui-ci a 1 mois pour introduire un recours et justifier la hausse de loyer en fonction des dépenses qu'il a connues au cours de l'année précédente, ce qui fait en sorte qu'il devra avoir toutes ses factures par rapport à l'ensemble des travaux qu'il aura fait, soit dans l'immeuble, soit dans le logement, ses factures d'assurance, de gestion, d'entretien général, etc. Et il y aura un calcul qui est fait en vertu de la réglementation en vigueur, et c'est un greffier spécial du tribunal administratif du logement qui fixe le montant de la hausse de loyer. Concernant les évictions, on peut voir plusieurs locataires qui cherchent à mettre fin au bail d'un vieux locataire qui est là depuis 25 ans par toutes sortes de façons. Parce qu'en bout de ligne, l'éviction, c'est la conséquence de la résiliation du bail. Donc, l'éviction de façon générale, bon, les tentatives d'éviction, on peut les rencontrer avec des locataires qui décident de ne pas accepter le loyer, puis de tenter de résilier le bail au motif de non-paiement. Ça, bien entendu, la contestation se fait très, très simplement quand on a les preuves de tentative de transfert et de refus d'encaissement de la part du locataire. Mais sinon, il y a toutes sortes d'autres manœuvres pour essayer de mettre fin au bail. Mais pour les évictions, le terme plus précis, selon le Code civil, on parle dans ce cas-ci d'agrandissement substantiel du logement, de subdivision du logement, ou de changement d'affectation du logement. Et c'est des recours très courants ou des reprises de possession que, ultimement, on croit que la reprise de possession, c'est parce que le locataire souhaite se loger lui-même ou un membre de sa famille pour y demeurer à long terme. Mais encore là, souvent, c'est une tentative. On envoie une simple lettre. On dit, bon, ben, je le reprends pour ma fille. Et là, les gens se disent, ah, ben, je suis obligé de quitter dans ce cas-là, sans faire de contestation et sans vraiment enquêter sur les intentions réelles de leur locataire. Pour ce qui est des protections par rapport à l'éviction ou aux reprises de possession, c'est les mêmes choses. C'est toujours la possibilité de contester devant le tribunal administratif du logement.
On entend souvent le terme « rénoviction », mais il n'est pas toujours clair ce à quoi cela réfère. Nos deux invités nous ont expliqué ce phénomène, ainsi que les conséquences engendrées par les rénovictions.
La question de rénoviction n'a pas de définition juridique à son sens propre. On va souvent faire référence à quand on parle de rénoviction dans les médias, dans le discours public, on fait souvent référence à deux types de manœuvres utilisées par le propriétaire afin de d'évincer et de mettre à mal le droit au maintien dans le lieu de locataire. La première, c'est l'utilisation des mécanismes déjà prévus par la loi pour réussir la résiliation du bail. Donc ici, on parle très spécifiquement du mécanisme de reprise du logement qui permet au propriétaire de reprendre le logement pour y habiter lui-même ou un membre de sa famille proche au premier degré, et le mécanisme qu'on appelle d'éviction, qui est un mécanisme qui permet d'évincer un locataire si on a des projets d'agrandissement, de subdivision ou de changement d'affectation du logement. Donc c'est très restreint là, on est vraiment dans des critères très précis. Si la réalité est telle que de plus en plus, surtout dans un contexte de crise du logement, où le propriétaire est incité à augmenter son loyer par le biais d'un changement de locataire, on voit de plus en plus cette instrumentalisation un peu de mauvaise foi de ces deux mécanismes de reprise et d'éviction. Que les conséquences sont tellement minimes, c'est-à-dire on parle d'un recours en dommages intérêts punitifs, là, qui sont souvent faméliques auprès du tribunal administratif du logement, que ce n'est pas un dissuasif pour un ou une propriétaire d'utiliser ce type de recours comme prétexte pour évincer le locataire. La deuxième partie est ce qui est à l'origine du mot rénovation.
Selon Maître Marc-André Aymard,
Polytem qui avait jamais suivi la tendance vers la hausse. Alors moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont décidé de venir investir. Les rénovictions, ce n'est pas un concept juridique, mais bien un phénomène socio-économique qui consiste ultimement à trouver une façon de mettre un individu qui souvent est locataire depuis de nombreuses années, de mettre fin à son bail pour ainsi faire ou bien une remise en fraîcheur de l'appartement ou bien des rénovations en profondeur pour le remettre sur le marché à un prix qui est souvent le double, voire le triple du loyer qui était payé précédemment. Les médiums, quand je parle de médiums légaux, je parle des procédures qui peuvent être souvent utilisées par les locataires pour arriver à cette fin, c'est de passer par les agrandissements substantiels du logement ou par la subdivision de ceux-ci. Et c'est pourquoi certains arrondissements les interdisent maintenant pour essayer de freiner cette nouvelle tendance. Et ultimement, les implications juridiques sont très simples. Parce que lorsqu'on fait affaire à un avis d'éviction pour agrandissement, le fardeau de la preuve du locateur est relativement simple. Il s'agit de payer pour son plan d'architecte qui est nécessaire pour l'obtention de son permis, de prouver qu'il a les fonds nécessaires pour mener à bien le projet de rénovation qu'il entend faire et par la suite d'en faire la preuve à la régie du logement.
Maître Marc-André Aymard a mentionné le tribunal administratif du logement. Il nous a parlé plus en détail de ce tribunal.
Le tribunal administratif du logement, anciennement la régie du logement, anciennement la commission des loyers, a été créé dans un but de permettre une plus grande accessibilité au processus judiciaire, au débat judiciaire contradictoire, au justiciable, soit les locataires et les locataires, parce que parfois, ce n'est pas nécessairement des grands enjeux au niveau monétaire et ce n'est pas tous les locataires ni tous les locataires qui ont les moyens de se payer les services d'un avocat. Ce n'est pas tous les locataires qui sont admissibles à l'aide juridique. Donc, il fallait trouver un forum qui allait avoir des décideurs spécialisés et qui en même temps allait faciliter ce débat-là d'avoir lieu. Alors, la procédure devant le tribunal administratif du logement est relativement beaucoup plus simple. Il y a, depuis tout récemment, certaines règles de procédure plus strictes au niveau de dénoncer lorsqu'on est en demande les pièces qu'on entend utiliser, de déposer les preuves de signification de sa demande au greffe du tribunal dans un délai de 45 jours. mais sinon, ça demeure relativement accessible à tout le monde. C'est une simple demande que souvent, il y a des préposés dans chacun des bureaux du tribunal administratif du logement qui aident les gens à rédiger les demandes en tant que telles.
Ceci nous a amené à nous interroger sur le mécanisme de contestation d'une décision du tribunal administratif du logement.
S'il s'agit d'une fixation de loyer, on peut en demander la révision au tribunal administratif du logement lui-même. Et c'est potentiellement parce que comme c'est un greffier spécial qui rend la décision initiale, là, la révision sera entendue par un juge administratif de ce tribunal. Et dépendamment de la complexité de la question, ça peut même être un banc de deux juges administratifs du tribunal. Mais sinon, de façon générale, les appels de la régie du logement se fait sur permission devant la Cour du Québec, division administrative et d'appel. Bien entendu, il ne faut pas que ça soit, par exemple, un dossier de la valeur d'une petite créance parce que on ne peut pas appeler de ces dossiers-là. Ça se fait en deux étapes. La première étape, celle sur le procès au niveau de la permission. Et par la suite, il s'agira de refaire potentiellement le procès à nouveau avec la permission de la Cour du Québec, ou simplement de replaider au niveau du droit les erreurs et de démontrer des erreurs de droit déterminantes qui auraient eu cours dans la décision du juge de première instance.
Nous nous sommes ensuite demandé si les locataires saisissent réellement le tribunal administratif du logement lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs locataires. Maître Crespo avait des commentaires à ce propos.
Le mécanisme total, autant il peut être simplifié par rapport à certains éléments d'ouverture, notification et autres, autant il ne faut pas oublier que ça demeure un processus judiciaire. Peut-être que là, pour des avocats, des étudiants et étudiantes en droit, c'est peut-être quelque chose qui fait moins peur, mais pour une bonne partie de la population, c'est extrêmement intimidant. C'est surtout parce que ce qui est en jeu, c'est notre lieu d'habitation. Souvent, on néglige l'impact qu'a ce lieu d'habitation, l'impact psychosocial d'une telle crainte. Je veux dire, ne pas savoir si le logement dans lequel on habitait au cours des 15 dernières années va être encore notre logement l'année prochaine, ne pas savoir si on va voir notre niveau et notre qualité de vie se maintenir ou bien décroître dû à un déménagement forcé, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Et plus on est vulnérable, plus c'est quelque chose qui est lourd à porter. Alors, je vous raconte même pas les cas où de personnes récemment arrivées au Québec, au Canada, qui ne connaissent non seulement des fois pas la langue, mais pas les institutions, pas même les repères et les codes culturels. Imaginez-vous vous retrouver dans un tribunal pour préserver votre logement. C'est extrêmement angoissant, c'est très très lourd. Et donc, il va y avoir beaucoup d'hésitation pour les locataires à se dire, bon, mais je vais mener cette lutte super énergivore qui va, si je gagne, nuire à la relation que j'entretiens avec mon propriétaire. Et ça aussi, il faut pas l'oublier. Personne ne veut créer un sentiment d'animosité envers la personne de qui on dépend en quelque sorte.
De la pensée pousse dans vos oreilles. Vous écoutez CKUT Radio FM 90.3.
كان حماق كان حماق عليك الزين بأي لغة بعد تبين أقولها ترى منزلجي على هالمرة أقول ترى مو طبيعي هالجمال جمال. هالجمال جمال. مستعد اخفج بالحلال حلال. بالحلال حلال. فيها عرج ميكس بيت سمر وخوال اي خوال اسمج فذوني نفس الطار يسقل سقال 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 انت الحلال مالي انت فيروز وانا نزر غباني اجي نقول لك الزين راك الحب ديالي يالي. انا كنت صايع بس جمالها رباني بارو
يا الحبيب ديالي لا بغيتيني دق الباب وانا مهري غالي بغاو يفرحوا بيا الحباب ما في هروب ما في هروب هروب من المكتب اليوم ما نكتبوا الكتاب نايضة نايضة حليلة على راسي نايضة نايضة حب ورومانسية نايضة نايضة حليلة على راسي حب ورومانسية نايضة نايضة
وهي وهي انو وضوحها هاد الليله
زاهيه
وحمقاتني هاد الزوينه ناري شوف هالغزاله حتى ما شات تخلي الناس كلها محساده فنه والله صايره واو صراحه
نسمه ربيع خليجيه
واو يا يد سباحه امبي طالع راحه فنانه حد ولا مرجانة خوخل انتي رمانة جوجنا انتي وانا
ويلا حبيبي ديالي لا بغيتيني دق الباب وانا مهري غالي قوي وفرحوا بيا الاحباب ما في هروب ما في هروب هروب من المكتب اليوم انا كتبوا الكتاب نايدة نايدة وحلي على راسي نايدة نايدة حب ورومانسية نايدة نايدة
خاتم في الصبح
حلالك
حلالك لانها نايضة لين الصبح
حلالك
حلالك حطينا الخاتم في الصبح
حلالك حلالك
لانها نايضة لين الصبح
نايضة نايضة
نايضة نايضة نايضة نايضة نايضة نايضة
Me revoilà au micro, donc l'émission est terminée. J'espère que vous avez bien aimé le reportage du groupe des OSBL en matière d'habitation. Sur les Québécois des OSBL en matière d'habitation, vous pouvez le retrouver sur YouTube, le droit des locataires durant la crise du logement au Québec. Ensuite, on avait la pièce de Philippe Hirachi, un artiste marocain, un artiste noir marocain. Mais vous aurez lire l'histoire, voilà, donc au Maroc, dans le Maghreb, en fait, il n'y a pas que des personnes. On a c'est l'Afrique du Nord, en fait, le Maghreb a des personnes de race blanche. Mais vous auriez lire l'histoire un peu, puis dans ces pays du Maghreb, donc au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, il y avait avant, je dirais, avant, il y a bien longtemps, des personnes qui étaient là, donc des Marocains d'origine, non des Africains, donc de l'Afrique subsaharienne, donc des Marocains d'origine, mais de race noire. Donc aujourd'hui, on les appelle des Maures noirs, Maures, M-A-U-R-E, noirs, donc des personnes de race noire. Mais voilà, donc Philippe Hirachi est un artiste marocain noir, je suis très fière, donc je l'encourage. Puis voilà, et donc voilà, donc bon artiste avec une autre dame, Allah Al-Hamdi. Donc les Marocains ne sont pas que blancs. Les Algériens également, les Tunisiens, les Libyens également. Il y avait à l'époque, ils ont quitté, l'histoire raconte qu'ils ont quitté ces terres, mais il en reste quand même. Donc, encore des gens, des Noirs natifs du Maroc, au Maroc, et en Algérie, et en Libye, et en Tunisie. Il y en a encore présents, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Une bonne part ont quitté. L'histoire parle des années 1900, peut-être même avant. Donc, une bonne part ont quitté, mais donc, il y a des Marocains blancs et Philippe Hirachi est un Marocain blanc, mais un vrai Marocain, donc pas une personne qu'on a fait à ces pays de l'Afrique subsaharienne. Hein. Dans le pays du Maghreb, on parle du bas, hein, qu'on fait allusion à l'Afrique subsaharienne, on fait référence à ces pays du bas. Donc, vraiment des origines, des gens qui originent voilà, de ces pays du Maghreb, qui résidaient où avant, donc ont toujours résidé en fait là, dans ces pays là, du nord de l'Afrique. Bref, j'encourage Philippe Hirachi. Maintenant, pour conclure l'émission, vous avez le Festival de Jazz. N'oubliez pas, en fait, le Festival de Jazz international de Montréal, qui débute le 29 juin, donc la semaine prochaine, du 29 juin au 8 juillet. Donc, on a une panoplie d'artistes, dont Pierre Quindos, un Congolais d'origine. Vous savez que c'est d'origine congolaise, donc un Congolais d'origine. Et on a également les artistes, un groupe d'artistes congolais donc, qui vivent aux États-Unis, je pense bien. Donc, Jupiter and Okwes. de la musique, oui, à consonance un peu bon, congolaise, africaine, mais également jazz et rock, et ainsi de suite. Pierre Coindeuse et Jupiter et Oak West vont offrir leur prestation le 5 juillet. Vous avez également l'événement L'Élite. Donc, je peux rendre hommage un peu à Philippe Rachid, hein, qui est de l'Afrique du Nord. Donc, l'événement L'Élite. L'Élite, L-A-Y-L-I-T, qui signifie en arabe la nuit de, apparemment. Donc, vous demanderez une personnance d'origine, une personne originaire de ces pays d'arabe, donc du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Mais, juste en passant, culture arabe, l'Afrique du Nord, bon, si on en revient au super artiste Philippe Rachid, est-ce que Philippe Rachid se dit arabe, là? Bon, je pense qu'il se dit africain, donc je dis oui, dans l'Afrique du Nord, on associe l'Afrique du Nord à des pays, en fait, à des personnes d'origine arabe, mais aussi des Africains. Donc, culture arabe, mais également culture africaine du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Bref, voilà. Donc, l'élite, qui signifie la nuit de. La nuit, puis pour deux. Pour danser. Donc, si on a un événement, je pense que c'est un événement dansant, en fait. Est-ce que c'est un groupe ou un événement dansant? Mais c'est souvent, en fait, c'est souvent un événement dansant, en fait. Donc, il faudrait vérifier exactement si c'est vraiment un groupe ou si c'est vraiment un événement, parce que finalement, vous allez pouvoir vous rassembler et danser. Donc, pour célébrer les cultures du Moyen-Orient arabe, mais également africain, donc de l'Afrique du Nord. L'élite permet donc également aux membres des communautés LGBTQ+ de s'exprimer et donc de s'éclater en toute liberté. Donc, l'élite le 12 juillet à 23h59. Vous avez l'événement clôture Missy Gray le 8 juillet à 21h30. Visitez le site du Festival international de jazz de Montréal, donc montrealjazzfest.com, du 29 juin au 8 juillet. Maintenant, vous savez que oui, j'effectue toujours du bénévolat pour le centre. Je suis peu présente, mais tout de même, donc pour le centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Et donc, au centre, on retrouve l'association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et travailleuses et travailleurs d'agence de placement. Donc, si vous avez besoin d'aide, de soutien, vivez des conditions de travail difficiles, contactez le centre au 514-342-2111, 514-342-2111. Et voilà, vous avez également le site internet, donc IWC, comme Catherine, Tradition City, Catherine Thomas, International, /FR. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Vous avez besoin, de donner votre opinion, etc. Vous pouvez rejoindre l'équipe en nous envoyant un courriel, à prod@commercialcqut.ca. Vous avez également les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et on se dit au 27 juillet prochain. Je n'étais pas présente les deux derniers mois, je pense bien très occupée, mais me voilà au micro, je dis bien heureuse. On se dit au 27 juillet prochain. N'oubliez pas le Festival international de jazz, n'oubliez pas d'essayer de connaître davantage l'artiste Philippe Rachid, un black marocain, donc non de culture arabe, mais de culture africaine. Je rappelle qu'il y a des blacks qui étaient là au Maroc depuis bien longtemps. Et donc le Maroc, les Marocains ne sont pas que des personnes de race blanche, toutes ces personnes du Maghreb, mais également donc, des personnes africaines, non de l'Afrique.
Digicel, multiplier chaque minute, yo pa 8. Minute la saute l'autre bord, l'oli rive Haïti pa 8. Ça veut dire ou carré connecté la journée coulant 8. Avec 8 fois plus minute pour parler 8 fois plus. Avec un spécial Digicel, ça chaque minute vaut 8. Yeah. Par la famille ou par la zami, 8 fois plus.
Les avantages continuent pendant tout le mois. Digicel multiplie par 8 tout top up que vous envoyez à vos parents en Haïti. Oui, vous avez bien entendu, ce mois est spécial avec Digicel. Envoyez 13$ de recharge en Haïti et votre famille recevra 8 fois la valeur plus 8 gigas de données. Et ainsi, vous restez connecté 8 fois plus et vous restez bien connecté avec les vôtres en Haïti. Plus de dialogue, plus d'amour. Allez sur l'application de Digicel International sur topup.digicelgroup.com ou chez un agent. Envoyez une recharge de Digicel et faites-les bénéficier de 8 fois la valeur plus 8 gigas de données. Termes et conditions applicables. Cette promotion est valable pendant tout le mois.
You're listening to CKUT. The following programming is taken from CKUT. Good evening. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM. I'm your host, Sarah DeAy, speaking to you from the studio live on Thursday, June 22nd, 2023. It's a beautiful day. We are on the verge of a long weekend. Happy Saint-Jean, Fête Nationale coming up on Saturday. It's warm out and sunny and beautiful. Tomorrow's going to be more of the same as well. Now, this is the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage in Ganiagahaga and Munuyang in the Anishinaabe Mohan language, where we spell theater with an R-E at the end. I feel like it's important to mention